Eh bien, bonjour à vous toutes et tous.
Bonjour.
Aujourd'hui, c'est un jour de joie que de pouvoir partager la parole de Dieu. Et je vais vous inviter non pas seulement à l'écouter, mais à repartir en la mettant en pratique. Et je vais introduire ce temps de partage par un texte que nous trouvons dans l'Apocalypse, Apocalypse 3, le verset 10 et 11. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Le thème que j'ai trouvé pour ce matin, c'est apprendre à lever les yeux. Et pour concrétiser cela, j'ai pris une histoire que nous venons de vivre. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de pouvoir actualiser la parole de Dieu et non pas nous gargariser de souvenirs lointains alors que nous avons un Dieu qui est proche, un Dieu qui veut nous parler, un Dieu qui veut nous toucher aujourd'hui. Alors, il s'agit d'un fait divers, banal, et pourtant qui a attiré toute mon attention. Je vais essayer de vous partager une expérience que j'ai vécue il n'y a pas trop longtemps. Nous étions dans la forêt avec des amis sur un chemin bien fréquenté entre arbres et plaines. Nous avions laissé nos voitures au parking et marchions ensemble, nous réjouissant de ce que le Seigneur nous donnait de vivre, regardant la nature, regardant les arbres et regardant le ciel. Soudain, afin de couper quelque chose, je ne sais plus exactement quoi, mon ami, se souvenant qu'il avait à son trousseau de clés un couteau, se mit à chercher dans ses poches, la poche de gauche, la poche de droite, puis se tournant vers sa femme, lui dit « Est-ce que par hasard, tu n'aurais pas mes clés de voiture ?» Et elle, interrogative, lui dit « Non ». Alors imaginez-vous un petit peu la scène, alors que nous étions volubiles, heureux de pouvoir contempler ce que le Seigneur nous donnait de vivre, soudainement, nous avons été repris par une réalité, mes clés. Alors là, s'en est ensuivi quelque chose de particulier dans nos pensées. Très vite, nos pensées ont vagabondé. Nous sommes loin de la maison. Nous avons tous les papiers dans la voiture. Nous n'avons pas les clés. Qu'allons-nous faire? Et c'est à ce moment-là que je me suis mis à dire, Seigneur, il ne nous arrive rien du tout sans que tu en sois au courant. Seigneur, que puis-je apprendre au travers de cette aventure, de cette situation? Quel enseignement puis-je en retirer pour aller plus loin avec toi? Et une première assurance s'imposa à moi, pas traversa mon esprit, mais s'imposa à moi, vos clés ne sont pas perdues. Et cette perspective me libéra de tout souci. Et tout en continuant à chercher, je me suis mise à remercier Dieu. Puis nous avons croisé une dame, parce que bien entendu, nous avons commencé à rebrousser chemin. Et cette dame nous confirma partiellement ce que j'avais reçu. Oui, quelqu'un a trouvé vos clés et est reparti dans cette direction. Rassuré. Nos regards ne se sont plus focalisés sur le bord de la route, sur le bas-côté, mais plutôt vers l'horizon, afin de voir la personne qui avait retrouvé les clés. Nous avons croisé une deuxième personne qui nous a demandé si, par hasard, nous n'avions pas perdu des clés. Parce que quelqu'un les avait trouvées et les avait déposées sur le pneu avant de la voiture, puisqu'aujourd'hui, quand on clique sur son porte-clés, les voitures nous disent « oui, je suis là ». Nous avons donc été capables de terminer notre chemin en remerciant Dieu par la foi pour la personne qui l'avait mis sur notre chemin afin de retrouver les clés et d'en prendre soin. Arrivés à la voiture, nous n'avions plus qu'une chose à faire, c'est regarder sur l'un des quatre pneus et effectivement, les clés y étaient. Pourquoi est-ce que je vous apporte cette histoire qui paraît tout à fait banale? Mais au travers de cet épisode, j'ai trouvé quelque chose et plusieurs enseignements qui pourraient être susceptibles de nous faire avancer, de nous faire progresser et de nous faire grandir. D'un seul coup, un tas de choses se sont ouvertes. La première, nous allons la concrétiser au travers d'un verset biblique. Ce verset, vous le trouvez dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est avec cette pensée et cette affirmation que nous sommes partis nous promener, nous réjouissant de ce que Dieu nous donnait de vivre, transformés que nous étions par la grâce de Dieu. Ce chemin de forêt peut être notre chemin de vie avec ses habitudes, ses réflexes et ses insouciances. Nous avons rencontré le Seigneur. Il a transformé notre vie, il a transformé notre quotidien. Et ce qui était n'est plus. Et aujourd'hui, nous vivons en nouveauté de vie. Mais n'oublions pas que la vigilance ne doit pas nous quitter. Et la parole nous le rappelle dans 1 Pierre 5:8. Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Deuxième point, nous le trouvons, lui, dans Luc 15, au verset 8. Quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quelle réaction avons-nous eue lorsque nous avons découvert que la clé était perdue? Chercher, chercher et encore chercher. Nous avons mis la tête dans les épaules, baisser le front et scruter le sol, à gauche, à droite, chercher et chercher encore, avec une seule perspective, celle de retrouver les clés. Nos pensées ont donc vagabondé avec des solutions humaines, des solutions qui tiennent la route, des solutions plausibles. Rentrer à pied, refaire un jeu de clés, ne pas retrouver la voiture, partie avec le nouveau possesseur des clés, ou alors mettre notre confiance en Dieu qui connaît tout. Et je désire relever que Dieu ne nous a pas laissé longtemps vagabonder dans nos pensées. Troisièmement, nous trouvons dans Ésaïe 41, au verset 10, le verset suivant. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante. » Dieu avait placé des personnes sur notre route afin de nous rassurer et de nous conforter. La troisième personne que nous ne connaissions pas a effectué le travail. Et cela aussi, la parole de Dieu nous en parle. Dans 1 Corinthiens 3, au verset 6. « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. » Et en l'occurrence, c'est Dieu qui a mis les clés dans les mains d'une personne. Plus loin aussi, dans 1 Corinthiens 3, au verset 9, nous lisons « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Et c'est exactement ce que Dieu fait aussi dans nos vies, avec nous et en nous, afin que nous ne nous glorifions en rien. Il place sur notre route des anges pour nous aider à marcher par la foi, à regarder vers le haut, en regardant à lui et en lui laissant toute la priorité. Il est notre Dieu et nous sommes à lui. Quatrièmement, je reprends l'histoire des drachmes perdues. Le verset 9 nous dit, « Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue et j'ai retrouvé mes clés. » C'est également ce que nous avons fait lorsque nous avons récupéré cette fameuse clé. La voiture et son contenu. Et nous avons aussi retrouvé notre sourire. Et nous nous sommes réjouis effectivement au travers d'une collation. Ce banal épisode de vie peut également être un enseignement concernant notre relation avec Dieu. Comment connaissons-nous Dieu? Qui est-il réellement pour chacun d'entre nous? Sommes-nous en mesure de lever les yeux vers notre Dieu dans n'importe quelle situation? Notre foi se base-t-elle sur ce que nous voyons ou sur ce que la parole de Dieu nous dit? En définitive, sur ce que nous croyons. dans l'épisode de la traversée du lac, si vous vous souvenez, lorsque les éléments se déchaînèrent et que Pierre défia Jésus, son engagement hors de la barque se produisit par la foi et en regardant Jésus. Je vous lis le texte. Il se trouve dans Matthieu 14 au verset 28. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux, sur les eaux. » Et au verset 29, Jésus lui répondit, « Viens, viens. » Et Pierre sortit de la barque et il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Tant que Pierre a regardé à Jésus, il a gardé son cœur et il a répondu à la réponse de Jésus, à l'injonction de Jésus, « Viens !» Et il a tenu sur l'eau. Dès qu'une vague ou une éclaboussure l'a atteint, son regard s'est tourné vers l'élément et il en a oublié celui qui lui avait dit « Viens !» Et il a commencé à couler. Le changement de direction de notre horizon ou de notre champ de vision peut influencer notre foi. Tant que Pierre avait les yeux fixés sur Jésus, il dominait le problème de l'eau qui le soutenait. Et dès qu'il a fixé les yeux sur le problème, il a été pris de crainte parce que l'eau, cet élément liquide, a été plus fort que sa foi. Jésus, lui, est aussi le premier exemple de cette relation de confiance et d'intimité avec Dieu, entre Dieu et lui. Nous le lisons à nouveau dans la parole de Dieu, dans Matthieu 14, au verset 19. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les cinq pains, les cinq poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Jésus s'est engagé en faisant premièrement asseoir la foule, en prenant deuxièmement les pains et les poissons, et troisièmement, confiant, il leva les yeux vers celui qui est à l'origine de tout, vers son Père, et le remercia. Et Dieu agit. Il n'a pas regardé aux circonstances. Imaginez-vous, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Faisons un rapide calcul, on est vitement à 12 000 personnes. Et qu'est-ce que j'ai à leur donner? 3 pains et 2 poissons. Seule une relation d'intimité et une relation solide avec celui qui peut tout, en qui tout est, pas sera, mais est possible. Dans Éphésiens 3 au verset 20, nous pouvons lire Et cela, c'est important pour nous. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire en Jésus-Christ, dans toutes les générations. Aujourd'hui est une génération, pas celle future, mais aujourd'hui est une génération au siècle des siècles. Sachons une chose, frères et sœurs, c'est que Dieu ne nous demandera jamais des choses impossibles ou insurmontables. Par contre, il veut nous confronter à notre foi, et que notre assurance en lui soit bien réelle. Et il veut nous permettre de regarder en haut en toutes circonstances. Nous, nous sommes vite oublieux et souvent en relation et en soumission à notre rationalisme humain, en oubliant le surnaturel de Dieu. Prenons l'exemple d'une tuile qui tombe du toit. Elle prend plus d'importance que toutes celles qui sont restées sur le toit et qui sont là pour nous protéger. Nous regardons plus facilement le problème que la solution. Sommes-nous sensibles, nous l'avons chanté, nous l'avons prié tout à l'heure, sommes-nous sensibles à l'action du Saint-Esprit qui nous appelle à lever les yeux au-dessus de nos problèmes, de nos situations, de nos doutes, de nos difficultés, et de tenir ferme, assuré que nous ne sommes pas seuls et affermi par la parole de Dieu et la lecture de cette parole. Et Jésus, ce matin, désire nous rappeler ceci, que nous trouvons dans Matthieu 28 au verset 20, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, soit jusqu'à mon retour. » Afin de compléter ma contribution à l'avancement du royaume de Dieu, je désire vous donner un autre exemple, peut-être un peu plus imagé. Il s'agit de l'histoire d'une mule, d'un puits et d'un fermier. Un jour, le fermier entend sa mule hurler. Il va en direction du bruit et découvre que la mule est tombée dans le puits. Le puits est profond, la mule est blessée et le puits est désaffecté. Ma foi, se dit le pauvre paysan, je n'ai qu'une solution macabre, c'est enterrer la mule dans le puits. Il va trouver des amis bien aidants, bien gentils, et leur dit et leur propose de venir l'aider à coups de pelle à remplir le puits et d'enterrer ainsi la mule blessée. La mule, au fond de son trou, elle, regarde vers le haut Imaginez-vous, elle voit un rond de lumière, c'est tout. Mais quand soudainement elle reçoit sur sa croupe une première pelletée de terre, quelle ne fut sa stupeur et son angoisse. Toute mule qu'elle est, et souvenez-vous qu'une mule est têtue. Donc, notre mule reçoit une idée, mais je ne vais pas me laisser avoir par une pelle. Alors, elle secoue sa croupe, laisse tomber la terre, attend la pelletée suivante, fait de même, et à chaque pelletée qui descend par terre, elle marche dessus. Résultat, au bout d'un certain temps, le paysan et ses amis étant fatigués de jeter la terre, qu'est-ce qu'ils voient arriver en haut du puits ? La mule. J'ai trouvé cette image extraordinaire. Il s'agit d'une image peut-être basique, mais elle symbolise un fait réel. Elle symbolise que la foi, c'est faire confiance. Et faire confiance, c'est croire que Dieu, voyant notre intégrité, va, par la puissance du Saint-Esprit, nous inspirer la solution à notre problème. Quelqu'un parmi nous a-t-il perdu cette confiance ? Dieu est là pour nous tendre la main, pour nous redonner de sortir de notre puits. Car notre puits n'est jamais trop profond pour Dieu. Ce n'est pas un camion de terre ou ce n'est pas avec un camion de terre qu'ils sont venus remplir le puits. C'est à coup de pelletée. Cette image est aussi pour nous symbolique. Lorsque nous nous croyons accablés par une situation, cette situation n'est pas un camion, c'est une pelletée. Et Dieu est là pour nous en sortir, pour nous aider à voir en haut, à rechercher, à regarder en haut. Et j'aimerais vous donner un dernier petit exemple. Il s'agit de celui d'Étienne. Étienne rempli du Saint-Esprit. Souvenez-vous qu'Étienne est en train de se faire lapider. Pas parce qu'il a commis quelque chose de faux, simplement parce qu'il a voulu parler et témoigner de la grandeur de Dieu. Il est donc lapidé. Et Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le haut, vit, et souvenez-vous bien de cela, la gloire de Dieu et Jésus non pas assis, mais debout à la droite du Père. C'est une image que nous devons garder. Lorsque l'ennemi vient pour nous attaquer d'une manière ou d'une autre, ou même pas attaquer, mais nous perturber dans notre marche, dans notre foi, nous souvenir qu'à ces moments-là, Jésus s'est levé à côté du Père pour recevoir Étienne dans la gloire. Nous ne savons pas de quoi sera fait demain. Il l'a été prié tout à l'heure. Nous ne savons pas. La seule chose que nous savons et que je sais, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes là pour recevoir une parole de vie. Nous sommes là pour nous réconforter les uns les autres dans cette parole de vie, afin de pouvoir surmonter les difficultés de ce monde. Et comment y arriver ? Il n'y a qu'une solution, celle de regarder vers le haut. Quelles que soient nos difficultés, Dieu est là. Quelle que soit la grandeur de la pelletée qu'il nous semble que nous recevons sur la tête, Dieu est là. Et il désire nous faire sortir de n'importe quelle de nos difficultés. Et je vais aller plus loin. Qu'elles soient matérielles, qu'elles soient physiques, qu'elles soient de n'importe quel ordre, souvenons-nous, Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qui le compose. Amen. Et je vous invite à la prière. Seigneur, oui, c'est avec autorité que nous proclamons ta parole dans ces murs et dans notre vie, Seigneur, afin que tu puisses venir à bout de nos difficultés, que tu puisses venir, Seigneur, nous aider à sortir de nos puits, quels qu'ils soient. Je te remercie, Seigneur, pour l'action du Saint-Esprit. Nous avons prié afin qu'il descende sur nous. Eh bien, merci, Seigneur, parce que tu accomplis ta promesse. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen.